quelque chose de très concret et de très visible. Et de l'autre côté, eh ben, ce prolétariat qui était censé avoir disparu, bon, il suffit de voir les coups de colère. Il y a dans presque toutes les villes une petite boîte de 80, 200 salariés qui ferment là, mais dans une petite ville non universitaire, ça a des conséquences en cascade sur le logement, sur le petit commerce, etc.
Explique.
La lutte de classe s'est dépassée.
Qu'au nom de la guerre économique,
pauvres et riches doivent collaborer.
La droite, la gauche capitaliste
ont ouvert la voie aux fascistes.
Alors ne te trompe pas de colère
et méfie-toi des milliardaires.
Avec ou sans œil de verre,
oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. Qui peut rêver du RMI, même si certains estiment que c'est bien trop, que ça suffit. Que celui qui n'a pas d'emploi n'a qu'à se contenter de ça.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. La gauche, la droite avait promis, tu les as cru, ils t'ont trahi, maillon faible qu'on élimine. Au bistrot, tu rêves de vengeance, tu bois contre l'indifférence.
Ne te trompe pas de colère, et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. Quand tous les jours à la télé, les patrons se pavanent et friment, disant qu'il faut se résigner. Car à la bourse, c'est la crise, faut sacrifier pour l'entreprise.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. Quand même avec des heures de fête, la grève se transforme en défaite et la précarité te guette.
Mais quand tu veux manifester, les flics protègent les bons quartiers.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
On continue avec Daniel Ben Saïd sur Marx, mode d'emploi chez Zone, avec des dessins souvent très, très, très poilants de Charb. Et évidemment, on en vient au Capital de Marx. Et là, je voudrais lire quelques lignes. Au commencement était la marchandise. Sous son apparente banalité, la moindre table, la moindre montre, la moindre assiette, comme la noix de la célèbre chanson de Charles Trenet, contient en tant que marchandise tout un monde. Il suffit de l'ouvrir pour qu'en sorte, comme les foulards et lapins d'un chapeau d'illusionniste, une série de catégories qui vont par deux, la valeur d'usage et la valeur d'échange, le travail concret et le travail abstrait, le capital constant et le capital variable, le capital fixe et le capital circulant. Tout un monde schizophrène, perpétuellement dédoublé entre quantité et qualité, public et privé, homme et citoyen. Avec la définition inaugurale de la richesse comme un énorme entassement de marchandises, Marx tient le bon bout pour percer le grand mystère moderne qui est censé faire de l'argent. Voilà un extrait qui, pour introduire en quelques minutes, l'explication des trois tomes du Capital de Marx. Mais vous présentez ça bien en disant non, 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 pas d'inquiétude, c'est un polar finalement.
C'est un grand polar, ouais.
Oui.
Mais bon, c'est pas une blague, hein. Bon, je faisais ça à mes étudiants, évidemment, c'est un artifice pédagogique, mais un artifice sérieux. Parce que si on regarde la période de rédaction du Capital, elle est exactement contemporaine de la naissance du roman policier moderne. Un peu postérieure à l'histoire des 30 de Balzac, mais d'Edgar Poe, de Wilkie Collins, de quelques années antérieures à Conan Doyle. Parce que le roman policier moderne est un genre littéraire qui traite justement du monde urbain, Bon, les crimes passionnels à la campagne, il n'y a pas beaucoup de mystères, les liens sont directs. Bon, là, au contraire,